Bonjour à chacun. Nous avons commencé il y a 15 jours une nouvelle série sur les béatitudes de Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Alors sans refaire l'introduction, j'aimerais juste rappeler brièvement 7 points de cette introduction. Donc au sujet des béatitudes, 7 points que nous avons posés comme base à notre réflexion, à notre étude sur les béatitudes. Premièrement, le sermon sur la montagne et donc les béatitudes concernent essentiellement et premièrement les disciples de Jésus qu'il enseigne en leur énonçant les principes qui doivent gouverner leur vie dans le royaume des cieux. Je ne développe pas, si vous voulez le développement, il faudra réécouter ou écouter le premier volet donc, de la série il y a 15 jours. Deuxièmement, les béatitudes dressent en huit traits de pinceau un portrait du véritable disciple de Jésus. Troisièmement, ce portrait, s'il est idéal pour le disciple, représente fidèlement le Christ. Quatrièmement, tous les disciples sont concernés par les béatitudes. Cinquièmement, chaque disciple est concerné par chacune des béatitudes. Sixièmement, vivre les béatitudes, c'est vivre à contre-courant du monde et de ses valeurs. Et enfin, septièmement, le bonheur promis dans les béatitudes n'est pas avant tout ce que le croyant ressent, mais ce que Dieu déclare à son sujet. Ce matin, nous allons donc réfléchir à la première des 8 béatitudes qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, et donc elle se trouve au chapitre 5, verset 3. Je lis dans la traduction de la Bible dite à la colombe, c'est le titre qui est affiché, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est donc avec cette première béatitude que nous nous jetons à l'eau, que nous entrons dans le bain pour commencer à remonter le courant, pour commencer à nager à contre-courant. Pourquoi ? Parce que nous venons de le rappeler, vivre les béatitudes, c'est vivre à contre-courant du monde, de la société et de ses valeurs. Ainsi, quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », le monde lui dit l'inverse. Il dit « Heureux » et couvre d'éloges les riches, les forts, les puissants, les gagnants, les conquérants, les dominateurs, les battants, les fonceurs qui font la une des médias, les sûrs de soi, voire les présomptueux, les riches en esprit. Mais au fait, c'est quoi être pauvre en esprit? De quoi parle-t-on? Et puis, de quoi ne parle-t-on pas? Quelle est cette pauvreté spirituelle dont il semble être question ici? Comment la vivre? Y a-t-il un lien quelconque avec la pauvreté matérielle? En quoi Jésus incarne-t-il parfaitement cette béatitude? Au-delà du message individuel, y a-t-il quelque chose à entendre en tant qu'Église? Voilà quelques-unes des questions que nous pose notre béatitude, des questions auxquelles nous allons essayer de répondre le plus simplement possible. Passons donc à la signification de notre béatitude. Quelle est-elle? Qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples quand il leur dit « Heureux les pauvres en esprit » car le royaume des cieux est à eux. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'à l'évidence, cette première béatitude n'est pas la première par hasard. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle affirme est le préalable à ce que toutes les autres vont dire. En effet, les béatitudes concernent les disciples de Jésus, c'est-à-dire les membres de son royaume. Et pour entrer dans ce royaume et pour y vivre, Voilà, pardon. Pour entrer dans ce royaume et vivre tout ce que disent les autres béatitudes, il faut d'abord cette pauvreté spirituelle dont parle notre première béatitude. Cette pauvreté du cœur qui fait posséder le royaume de Dieu et qui permet d'y entrer. Pour avancer dans notre recherche du sens de notre béatitude, il nous faut écarter d'emblée ce qu'elle ne veut ou ce qu'elle ne peut pas dire, et en particulier la compréhension souvent moqueuse qui lie heureux les simples d'esprit. Vous l'avez certainement déjà entendu. Heureux les simples d'esprit. Bien évidemment, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le royaume des cieux n'est pas le rassemblement des naïfs, des niais, des simplistes, des crédules, des idiots, des simplets, et j'en passe. S'il est possible que le chrétien soit parfois crétin, ce n'est pas bien évidemment la caractéristique que Jésus met en avant ici. Alors pour éviter ce contresens, peut-être, mais ce n'est pas bien évidemment la seule raison, voici comment traduisent certaines des traductions les plus récentes. La Nouvelle Bible en français courant, « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Vous verrez qu'on évite le mot « esprit » quand même, beaucoup. Parole de vie, « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. » La Bible du Semeur, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et puis, second 21, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Littéralement, dans le texte, il faut simplement lire « Heureux les pauvres en ou les pauvres de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Deux remarques à ce stade. Premièrement, nous notons, sans autres explications, que cette expression « pauvre en esprit » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. C'est le seul endroit où nous la trouvons. Et deuxièmement, nous notons que l'esprit dont il est question ici, dans notre béatitude, n'est bien évidemment pas le Saint-Esprit, mais la faculté avec laquelle nous entrons en relation avec Dieu, la faculté avec laquelle nous réalisons la vie spirituelle et la vie morale, notre esprit. Dans la recherche du sens de notre béatitude, je vais maintenant directement à la compréhension qui fait consensus, qui fait largement consensus, et que l'on retrouve derrière chacune des traductions qui étaient affichées à l'écran. Ainsi, « pauvre en esprit » nous parle de pauvreté spirituelle, de pauvreté dans l'esprit, de pauvreté intérieure, nous parle de dépouillement de soi. Ce que Jésus est en train de dire ici, celles et ceux qu'il est en train de déclarer heureux, ce sont celles et ceux qui se reconnaissent moralement et spirituellement pauvres. Celles et ceux qui se reconnaissent pécheurs et perdus devant Dieu. Celles et ceux qui viennent à Dieu dans la compréhension de leur indignité et avec leurs mains vides. Celles et ceux qui viennent à Dieu conscients qu'ils n'ont rien à faire valoir, aucun mérite et tout à recevoir de Dieu. Le pauvre en esprit, c'est donc celui qui, conscient de sa misère spirituelle, s'en remet totalement à la grâce de Dieu. Celui qui abandonne son autosuffisance, celui qui abandonne son indépendance vis-à-vis de Dieu, celui qui abandonne son arrogance devant Dieu pour se repentir de ses péchés. Et à l'homme ou la femme qui agit ainsi, à celui ou celle qui est pauvre en esprit, Dieu accorde son royaume. Et c'est pour cela que cette personne est déclarée heureuse. Notons ici que l'Ancien Testament a beaucoup de choses à dire sur cet état d'esprit. Le pauvre en esprit dans l'Ancien Testament, c'est la personne humble qui va mettre sa confiance en Dieu, en opposition au méchant dont il est souvent question dans l'Ancien Testament, qui lui s'oppose à Dieu et généralement s'oppose à Dieu avec arrogance. Voici parmi beaucoup de possibilités, trois versets de l'Ancien Testament, je les ai pris dans la version de la Bible du Semeur, que l'on peut mettre en parallèle avec notre béatitude et qui soulignent avec d'autres mots que Dieu aime celui qui est pauvre en esprit. Psaume 34, verset 19. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. On peut comprendre ça comme quelqu'un qui est dans la détresse morale parce qu'il s'est pris une tuile sur la tête. Je pense qu'il faut d'abord le comprendre comme cet esprit de pauvreté spirituelle qui nous fait plier le genou devant Dieu. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Psaume 51, verset 19. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Ésaïe 66, verset 2. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Dans quelques-uns de nos chants, de nos cantiques, il est question de brisement. Et nous chantons, nous demandons à Dieu dans ces chants, « Brise-moi ». Ça vous dit quelque chose, certainement. « Brise-moi ». Et pour plusieurs d'entre nous, ces paroles sont difficiles à chanter, voire impossibles à chanter. Et j'aimerais suggérer ce matin que le sens qu'il faut donner à ces paroles est celui-ci. Ce qu'il faut comprendre, à mon sens, quand nous chantons ces paroles, c'est que ce que nous demandons à Dieu, ce n'est bien évidemment pas qu'il nous démolisse. C'est pas « brise-moi, mets-moi en miettes », c'est pas cela. Mais nous demandons à Dieu de briser notre résistance intérieure, celle qui fait que nous n'arrivons pas toujours à plier le genou, celle qui fait que nous n'arrivons pas toujours à demander pardon. Nous lui demandons de briser cette résistance intérieure pour faire de nous des pauvres en esprit. Voilà ce que nous demandons, me semble-t-il, des hommes et des femmes qui placent toute leur confiance en Dieu. Alors, il me semble qu'avec cette perspective, il est peut-être possible de chanter « Brise-moi ». Et peut-être y arriverez-vous la prochaine fois. Pour continuer à cerner le sens de cette expression « pauvre en esprit », je vous propose maintenant d'évoquer rapidement un autre texte des Évangiles qui nous offre un exemple très parlant sur le sujet. Il s'agit de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts que nous connaissons pour la plupart d'entre nous très bien. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. Il, c'est-à-dire Jésus, raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière : Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est quoi être pauvre en esprit ? C'est à l'instar de ce collecteur d'impôts se reconnaître pécheur et perdu à cause de ses péchés et s'en remettre entièrement à la grâce de Dieu. Et nous notons que c'est le collecteur d'impôts qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Et on pourrait le dire avec les mots de notre béatitude, c'est le collecteur d'impôts qui est déclaré heureux par Dieu et à qui Dieu donne son royaume. Chers amis, puisque Dieu voit les cœurs et ne juge jamais aux apparences, il est évident que toute tentative pour paraître pauvre en esprit est vouée à l'échec. Est vouée à l'échec devant Dieu. Oh, elle fonctionnera certainement pour un certain temps devant les hommes, comme pour ce pharisien dans la parabole, mais elle ne bernera jamais Dieu. Être pauvre en esprit, ce n'est jamais une question d'apparence. Ce n'est jamais une question de sacrifice à faire que les autres peuvent voir. Ce n'est même pas une question de qualité naturelle, comme par exemple l'effacement ou la discrétion que certains ont naturellement. Mais c'est une question de cœur. C'est une question d'attitude. C'est une question d'état d'esprit. En fait, être pauvre en esprit ne nous est absolument pas naturel. On ne naît pas pauvre en esprit. On le devient. On le veut, on le choisit, on le recherche. Cette pauvreté intérieure, à l'inverse de la pauvreté matérielle, n'est jamais quelque chose que nous subissons. C'est toujours quelque chose que nous choisissons de vivre. Justement, un mot sur la pauvreté matérielle et la richesse. Certains, en s'appuyant sur le texte parallèle de l'évangile de Luc, où il n'est question que de pauvres, hein, Luc dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Donc certains, sur la base de ce texte de Luc, affirment que Jésus, ici, dans cette béatitude, fait l'éloge de la pauvreté matérielle. Ainsi, selon eux, à l'instar de ce que Jésus demande au jeune homme riche, vous souvenez, il faudrait vendre tous ses biens, il faudrait se faire pauvre pour entrer dans le royaume des cieux, pour recevoir le royaume des cieux. En fait, ni Jésus ni la Bible ne font jamais l'éloge de la pauvreté. Il n'est question nulle part dans la Bible que la pauvreté soit bonne. Jamais. De plus, être pauvre n'a jamais été la garantie d'une spiritualité authentique. Il y a des pauvres autosuffisants devant Dieu, et il y a des riches pauvres en esprit. Alors bien sûr, la richesse peut être un obstacle considérable pour celui qui veut se confier en Dieu, pour ce qui est de se confier en Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien évidemment, on comprend facilement qu'il est difficile à celui qui ne manque de rien, matériellement parlant, de se confier en Dieu, de reconnaître son besoin de Dieu, d'être pauvre en esprit. On comprend la difficulté. Ceci dit, la pauvreté n'est pas une vertu. Et le pauvre est aussi pécheur que le riche. Dans sa condition de pauvre, le pauvre n'est pas plus proche de Dieu ou plus proche du royaume de Dieu que le riche. L'un comme l'autre doit choisir de se reconnaître spirituellement pauvre, doit choisir de reconnaître sa misère spirituelle et de s'en remettre à la seule grâce de Dieu, l'un comme l'autre. Le problème du jeune homme riche dans les évangiles n'était pas qu'il est riche, qu'il était riche. Son problème, c'est que ses richesses prenaient la place de Dieu. C'est ça le problème du jeune homme riche. Son problème, c'est que les richesses le possédaient plus qu'il ne les possédait. Et elles l'empêchaient d'être pauvre en esprit. Et c'est à l'évidence son amour de ses richesses qui faisait obstacle à son amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va lui demander de vendre tous ses biens, puis de le suivre, et non pas parce que la pauvreté serait la condition à rechercher pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, la pauvreté matérielle n'est pas le sujet de notre béatitude, même si on comprend la vigilance, la grande vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis des biens matériels qui peuvent rapidement faire obstacle à la pauvreté du cœur. Et c'est ainsi qu'un peu plus loin, dans ce sermon sur la montagne, Jésus va exhorter, dans la continuité de tout ce qu'on vient de dire, il va exhorter ses disciples à amasser des trésors dans le ciel. Car, dit-il, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est quoi être pauvre en esprit? Je vais bientôt nouer la gerbe. C'est finalement se voir comme Dieu nous voit. Et pour cela, il faut bien sûr connaître Dieu, le connaître tel qu'il est, ou en tout cas le connaître tel qu'on peut le connaître au travers de ce qu'il a révélé de lui, au travers de sa parole et en particulier au travers de Jésus, son Fils. Oui, c'est en voyant Dieu tel qu'il est, que nous allons nous voir tel que nous sommes. C'est quand nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu que nous comprenons notre péché et que nous comprenons notre misère spirituelle. Si vous voulez un développement sur ce point, je vous renvoie à la prédication du 1er septembre, « Sauvé pour servir », où j'avais un petit peu élaboré cela. Maintenant, un mot sur l'Église. Qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de l'Église face à notre béatitude? Bien sûr, il faut tout d'abord comprendre individuellement cette béatitude. Il faut la prendre et la comprendre individuellement. Mais une fois qu'on a dit ça, j'aimerais quand même souligner qu'il y a aussi, me semble-t-il, un aspect communautaire qu'il faut relever. Je ne le développe pas parce que Lionel le développera, je pense, dans quelques temps, dans sa série sur l'Apocalypse, puisque le texte se trouve au début du livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la lettre à l'église de Laodicée, lettre dans laquelle Jésus fait des reproches sévères, très sévères même, à son église. Et voici ce qu'il dit. « Je connais ta conduite. » Et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Que reproche Jésus à cette église de Laodicée? Il lui reproche premièrement sa tiédeur. C'est la première chose dans le texte. Mais il lui reproche surtout sa suffisance, son arrogance, alors qu'elle est en réalité misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, dit Jésus. Voilà une église qui s'illusionnait grandement sur son compte. Une église qui pensait être ce qu'elle n'était pas. Qui se pensait riche, alors sans doute matériellement et spirituellement, alors qu'en réalité elle était pauvre et misérable. Chers amis, ces versets sont une invitation, une véritable invitation en tant qu'Église à beaucoup d'humilité, à ne jamais nous reposer sur nos lauriers, à ne jamais penser que ça y est, nous avons atteint le but. C'était un peu le problème de l'Église de Corinthe qui avait tous les dons et qui pensait n'avoir plus besoin de rien. Cette église de Laodicée où l'attitude de cette Église, des chrétiens de cette Église, se trouve en réalité à l'opposé de la pauvreté spirituelle dont nous sommes en train de parler. Parce que les chrétiens de Laodicée pensaient avoir tout. Ils ne pensaient avoir plus besoin de rien. Et donc ne même plus avoir sans doute besoin du Seigneur. Alors peut-être qu'ils ne l'auraient pas formulé comme ça. Mais dans les faits, c'est ce qui se passait. Mais s'il faut être pauvre de cœur pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut le rester pour y vivre, jour après jour. Alors puisse Dieu nous accorder à titre individuel, mais aussi en tant qu'Église, d'être toujours lucides sur nous-mêmes personnellement et sur nous-mêmes en tant qu'Église. Qu'il nous accorde l'humilité de toujours chercher le Seigneur et de ne jamais nous confier en nous-mêmes, nous confier en nos propres forces, nos propres capacités, notre propre intelligence, notre sagesse, nos œuvres peut-être, notre histoire. On fêtera nos 130 ans de l'Église l'année prochaine, quand même. Ce n'est pas à nous qu'on va venir la raconter. Attention, ne pas nous confier dans notre patrimoine ou que sais-je. Oui, ce sont les pauvres en esprit qui reçoivent le royaume des cieux, mais aussi qui y vivent. Et c'est pourquoi nous devons sans cesse rechercher cette humilité devant le Seigneur. Oui, ce sont ceux qui sont comme des petits enfants qui entrent dans le royaume, dit Jésus dans Matthieu 18. C'est pourquoi nous devons sans cesse rechercher cette simplicité devant le Seigneur. Oui, c'est en perdant sa vie qu'on la sauve, comme dit Jésus dans Matthieu 10. C'est pourquoi nous devons sans cesse rechercher ce dépouillement devant le Seigneur. Le rechercher sans cesse parce que la tendance naturelle de la chair, c'est pas le dépouillement. La tendance naturelle de la chair, c'est l'orgueil. Mais si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait toujours grâce aux humbles, écrit l'apôtre Pierre. Il fait toujours grâce à celles et ceux qui sont pauvres en esprit. Nous avons rappelé au commencement que le portrait dressé par les Béatitudes était celui du Christ par excellence. Pour nous, les Béatitudes sont toujours des objectifs à atteindre. Mais pour le Christ, c'est une description parfaite. Alors comment notre béatitude correspond-elle au Christ? Notons que si pour nous, être pauvre en esprit passe par la reconnaissance de notre péché, cet aspect-là ne concerne bien évidemment pas le Seigneur. Alors comment notre béatitude correspond-elle au Christ? Notre première béatitude lui correspond parfaitement parce qu'il est celui qui s'est parfaitement soumis à la volonté de Dieu son Père. Il est celui qui s'en est remis totalement à Dieu son Père. Il est celui qui a vécu son humanité dans la dépendance totale à Dieu son Père. Oui, Jésus est le pauvre en esprit par excellence. Et il est en cela un modèle pour nous, celui à qui nous devons toujours chercher à ressembler, celui qui dit dans les évangiles « Je suis doux et humble de cœur ». Je suis doux et humble de cœur. Puissions-nous faire de cette humilité du cœur un objectif toujours nouveau? Je crois qu'il n'y a pas de plus grand objectif que la ressemblance à Jésus-Christ. Même si à vue humaine, c'est une aberration, puisque cela nous amène à rechercher ce que le monde considère comme petit, sans valeur, méprisable, puisque cela nous amène à plier le genou devant Dieu, à nous humilier devant lui. Mais c'est par là que passe cette ressemblance à Jésus-Christ. Et Dieu élèvera un jour celles et ceux qui se sont abaissés devant lui. celles et ceux qui sont pauvres en esprit, il les élèvera. Et il les déclare d'ores et déjà heureux, heureux, en leur donnant déjà ici-bas son royaume. Quelle grâce ! Oui, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen.